Nous lisons dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Nous arrivons au verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Haïman, Shéchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire Anak c'est un géant, des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Toute l'assemblée parlait et de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Et ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Voilà la sentence de Dieu devant la résistance des enfants d'Israël. On leur donne la terre promise. Il faut juste aller prendre le terrain. Nécessairement, il va y avoir des conflits, des guerres. Mais l'Éternel qui a fait les cieux, la terre, leur dit, mais c'est moi qui vous garantis la victoire. Et d'ailleurs, je vous ai sorti des situations plus graves que cela, parce que sortir d'Égypte, c'était plus difficile que conquérir Canaan. Donc, vous avez vu ma gloire. Dieu se fâche et dit, mais si encore vous n'aviez pas vu ma gloire, vous aviez vu ma gloire, tous ceux qui ont vu ma gloire, et qui ont résisté, qui ont murmuré, ils n'entreront pas en terre promise. Et ce sont vos enfants, pour qui vous craignez. Eux, ils entreront dans la terre promise. Bien-aimés, le Seigneur Jésus, avant de partir, dans Matthieu 28, 18 à 20, il dit « Tout pouvoir m'est donné ». Il commence, avant de parler, il fait cette introduction-là. Il dit « Tout pouvoir m'est donné ». Et donc, en quelque sorte, je vous donne ce pouvoir pour aller faire de toutes les nations des disciples, en commençant par Jérusalem, Samarie, et la Judée, la Samarie, et puis toute la terre. C'est la même chose que les enfants d'Israël ont vécu. Le Seigneur leur dit, j'ai tout pouvoir. C'est pourquoi je vous sors de l'Égypte avec miracle. Donc même quand ils sortaient de l'Égypte, non seulement qu'il y avait eu les 10 plaies, les 10 grands miracles que Moïse avait accomplis, mais il y avait aussi le fait qu'en sortant, les Égyptiens leur ont donné de l'or, de l'argent, beaucoup de richesses. Donc c'était vraiment une gloire claire et nette. Et dans le désert, pareil, il y a eu... Arrivé à la mer Rouge, il sépare la mer Rouge en deux. Ils entrent dans le désert, il fait encore des merveilles. Mais les enfants d'Israël, au moment de prendre la terre promise, ils sont déstabilisés à la vue des géants. L'homme est traître, l'homme est méchant. Et parce qu'il veut en quelque sorte que les choses se passent comme lui le veut. La victoire que Dieu veut lui donner, la manière que Dieu a décidé, lui n'en veut pas. Il veut gagner comme lui il pense. Maintenant que Dieu lui présente une autre façon de gagner, il dit non, Dieu nous livre et on préfère retourner en Égypte. C'est grave. Ils se sont dit même prenons un autre chef et retournons en Égypte. Voyez le lien, bien-aimé, quand les gens résistent à Dieu, ils vont se donner eux-mêmes leur propre chef. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit même dans Timothée. Ils vont se donner leur propre docteur. Souvent, nous blâmons les gens en disant, mais comment se fait-il qu'on suit un tel, ils suivent un tel escroc, ils suivent un tel faux pasteur, un faux apôtre qui dit des bêtises. Mais c'est normal, quand quelqu'un dans son cœur résiste à Dieu, il refusera les docteurs de Dieu, il va se choisir ses propres docteurs à lui. Parfois, ce n'est pas c'est pas la force de ces escrocs-là qui les attire. C'est eux-mêmes qui se choisissent un docteur selon leur goût. Et c'est un des symboles qu'on peut distinguer, discerner de ce que quelqu'un s'égare. C'est qu'il se choisira sa propre logique, ses propres docteurs, sa propre parole. Il ne voudra plus de la parole de Dieu. Ces gens-là disent, on retourne en Égypte. Et aujourd'hui, bien-aimés, peut-être qu'au milieu de nous, il n'y a pas des gens qui disent, nous retournons en Égypte. Mais bien-aimés, l'attitude d'inertie, l'attitude de sans espoir, c'est-à-dire que tu regardes le monde, tu attends juste que Dieu vienne t'enlever. C'est une attitude de défaite qu'ont manifesté ces gens-là rebelles. C'est cette même attitude. Eux ils ont dit... On reste ici ou on retourne en Égypte? Pourquoi ils n'ont pas de retourner en Égypte? Parce qu'ils voulaient un endroit où ils peuvent cultiver quand même. Hein. Il y a des rivières, il y a quand même une vie normale d'un pays. Mais si dans le désert où ils étaient, il y avait des rivières, il y avait des terrains où cultiver, ils auraient dit on reste ici. En fait, c'est la même logique que beaucoup de personnes ont dans les églises. Ils disent, bon, maintenant que je suis sauvé, je n'ai pas encore allé à prendre des risques à prêcher, à évangéliser. Je n'ai pas encore allé à prendre des risques. Je n'ai pas encore à me faire souffrir, à jeûner, à prier pour que Dieu sauve le reste. Moi, je suis déjà sauvé, c'est bon comme ça. Mais ils ne le disent pas, mais ils vivent cela. Je n'ai pas à souffrir encore pour faire avancer les choses. Je suis déjà bien, je suis avec Dieu. Et ces gens-là ont eu la même réaction, ils se sont dit, mais pourquoi aller prendre des risques, affronter des géants? Alors que devant ces gens-là, nous sommes comme des sauterelles. Même quand ces gens-là nous regardent, ils nous regardent comme des sauterelles. Beaucoup de gens s'attendent à ce que le travail du Seigneur soit facile. Ils pensent que puisqu'on a le Seigneur, Ce qui est de Dieu, ça doit couler forcément. On va passer, ça s'ouvre. On passe devant une porte, ça s'ouvre. Vous savez, comme les portes automatiques. Dès que tu t'approches, ça s'ouvre. Mais non, le Seigneur n'a pas voulu les choses ainsi. Il veut, il nous a donné l'autorité d'ouvrir les portes. Il veut travailler en nous. Parce que s'il s'agissait d'utiliser les portes automatiques, il n'aurait pas eu besoin de nous. Il aurait fait tout seul, sauver l'humanité, tout seul par sa logique. Mais, comme nous avons lu les deux jours précédents, dans Luc 12, 32, il est écrit « Petit troupeau, ne craignez point, votre Père a décidé, a choisi de vous donner le royaume. » C'est-à-dire qu'au lieu que lui-même Dieu agisse, il a décidé de passer par nous. Maintenant, vouloir autre chose, c'est se rebeller contre Dieu. Se dire qu'il sait pas ce qu'il fait. Donc, attendons-nous, bien-aimés, à ce que les autres nous regardent comme des sauterelles, comme des fous, comme des gens, des perdants. Attendons-nous à ce que le combat, l'apparence du combat soit dure. J'ai dit bien l'apparence, parce que parfois ce n'est que l'apparence, et quand tu t'approches, tu vois, finalement, le combat était simple. Quand il y a eu le combat entre David et Goliath, en apparence, le combat était perdu pour David. Il paraissait monstrueux, le combat. Mais ça a mis moins de temps, peut-être, que si David avait combattu physiquement un autre homme. Parce que c'est Dieu qui était derrière. Mais le Seigneur a dit, le juste vivra par la foi. Il ne peut pas nous donner des choses sans passer par un autre moyen que la foi. Donc, il va nous mettre des obstacles devant nous. Il va permettre que ces obstacles-là paraissent immenses afin que notre foi intervienne. Mais le Seigneur veut en nous qu'il y ait ce désir de conquérir, ce désir de combattant. Il nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, tout pouvoir m'est donné. Donc, quiconque refuse cet ordre-là, quiconque n'entre pas dans cet ordre, il ressemble à ces gens dont le Seigneur a dit, ben, si c'est ainsi, tu mourras sans voir ma gloire. Tu n'auras pas la terre promise, peut-être c'est tes enfants, eux, ils m'écouteront. Bien-aimés, voulons-nous passer une génération? Tu passes ta génération, tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Non. Siméon a demandé, il a dit, Seigneur, je veux voir la consolation d'Israël. Et il a vu Jésus, il a dit, maintenant je peux mourir. Chacun d'entre nous a le devoir de prier, comme c'est écrit dans Ésaïe 62, 6 à 7. J'ai placé devant tes murailles Jérusalem des gardes qui vont crier jour et nuit. Chacun de nous a le devoir de crier, de prier pour que sa ville soit gagnée pour le Seigneur, sa région soit gagnée pour le Seigneur et son pays. C'est le devoir de chacun. Il faut posséder le territoire. Le Seigneur a dit, vous commencez Jérusalem, Judée, Samarie et les extrémités de la terre entière. Donc il faut que la ville soit gagnée. Donc on ne peut pas jouer à l'église, c'est-à-dire on est ici, mais nos pensées sont vers une salle plus grande, à 30 kilomètres, ensuite on va changer. Non, bien-aimé, nos pensées ne doivent pas être dans une salle, dans une logique de salle, mais dans une logique de ville, de région et de pays. C'est comme ça que le Seigneur a parlé, il a dit Jérusalem, Judée, Samarie et le monde entier. C'est comme ça que nos pensées doivent fonctionner. Nous devons réfléchir ainsi. Le Seigneur nous a établi petit troupeau en Normandie. La ville de Rouen doit être gagnée. La Normandie, la France et le monde entier. Ça doit être au cœur des pensées de tout chrétien. Quand il se réveille, il doit penser que la terre promise, nous devons l'avoir. C'est-à-dire nous devons accomplir Matthieu 28, 18 à 20. Judée, Jérusalem, Judée, Samarie et le monde entier. Donc, on commence par sa famille, dans sa maison, que sa maison soit une maison de prière, que sa maison soit une maison des disciples de Jésus-Christ. Ça doit être le fondement au plus profond du cœur de chacun, de chaque chrétien, parce que c'est ainsi qu'on progresse. Jérusalem, Judée, Samarie, le monde entier. Et ensuite, l'église locale doit être une église réveillée où les gens pensent à conquérir, pas dans une logique charnelle, dans une logique d'ambition humaine, mais par rapport à la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui dit, allez prendre la terre promise, allez envoyer des espions, explorer déjà l'endroit. C'est pourquoi de temps à autre nous faisons quelques comme on avait fait dernièrement, il y a quelques années, on a fait le tour de Rouen dans l'intercession à pied, comme on avait fait en 2007 le tour de Normandie en voiture, parce qu'il faut explorer le pays que Dieu te donne. Il avait dit la même chose à Abraham dans Genèse, il a dit « lève les yeux, voilà, parcours le pays ». C'est comme ça, bien-aimé, même si on n'a pas encore la chose physiquement, il nous demande d'explorer. D'explorer physiquement par les louanges, par des prières, par des veillées de prières. Mais dans le cœur, tu te dis, voilà le territoire que Dieu m'a donné. Il faut que ce territoire soit connu comme étant le territoire des enfants de Dieu. Il faut que ce territoire où moi je suis soit connu comme un territoire où la gloire de Dieu se manifeste. Ça doit être le souci profond. Aujourd'hui, on a des soucis individuels. Je dois être qui? Je suis qui? Pasteur, apôtre, est-ce que je dois prêcher? Est-ce que je dois chanter? Est-ce que des soucis personnels, quel est mon ministère? Et ces gens-là, s'ils ne sont pas entrés, c'est à cause des soucis personnels. Et on va aller mourir là-bas. Des soucis individuels. Et ces soucis individuels amènent les gens forcément à la rébellion vis-à-vis du Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas dans les soucis individuels. Le Seigneur est dans le souci collectif. Il veut sauver l'humanité entière. Il voit toute l'humanité. Il ne voit pas qu'une seule personne. Mais quand il veut sauver toute l'humanité entière, forcément, chaque personne sera bénie. Mais le Seigneur n'est pas dans une logique égoïste. Et c'est cette logique égoïste qui a conduit ces gens à se rebeller contre Moïse, Aaron et Dieu lui-même. Et les gens vont dire, mais c'est trop, mais qu'est-ce qui est trop? Pourquoi tu es sur terre? Tu es sur terre pour sauver l'humanité entière. Sinon, Dieu est tellement content de t'avoir sauvé que lui-même t'aurait tué pour t'amener au ciel, pour que tu sois avec lui. Mais s'il te laisse, ça lui fait mal de te laisser sur terre. Il faut comprendre ça, bien-aimé, que Dieu, en tant que notre papa, notre sauveur, ça lui fait mal qu'on soit sur terre. Il aurait préféré être avec nous au ciel. Mais c'est un sacrifice que lui l'endure de nous laisser. Voyant bien que nous souffrons, voyant bien que nous sommes face à des ennemis, ça lui fait mal. Mais il faut que les autres aussi soient sauvés. C'est ce que le père avait dit à son fils aîné. Son fils aîné, son problème, c'était quoi? Mais ton cadet, mon petit frère, il a gaspillé tout l'argent de la famille. Toute une moitié de l'héritage, il a gaspillé. Le papa lui a dit, mais mon fils... Donc toi, tu voulais que moi, je laisse ton frère au dehors. Ton frère était mort. Maintenant qu'il revient à la vie, on ne va pas se réjouir. C'est ça, bien-aimé. Nous voulons quoi? La paix, la tranquillité. Et donc, vous pensez que Dieu va être content de voir les autres, comme il a dit des gens de Ninive, ne savoir pas repérer leur gauche de leur droite? Est-ce que lui, il a dit à Jonas, toi, tu pensais quoi? Moi, je cherche vraiment à les tuer, c'est ça ma volonté. Ma volonté, c'est de les sauver. Mais je les préviens que leur péché va les amener à la mort. C'est un avertissement. Ma volonté, ce n'est pas de tuer. Ma volonté, c'est de sauver. Dans Jean 3, 17, le Seigneur dit, à la suite de Jean 3, 16, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu condamner, il est venu sauver. » Bien-aimé, il ne faut pas rêver. Donc, le Seigneur nous a laissés sur terre. C'est une souffrance pour lui, mais il faut que les autres soient sauvés aussi. Comme il y a des gens qui ont souffert pour que nous soyons sauvés, nous aussi nous sommes appelés à aller affronter les géants d'Anak, à aller conquérir des territoires afin que d'autres personnes aussi soient sauvées. C'est à cela qu'il nous appelle. Il nous appelle à conquérir notre propre famille restreinte, qu'elle soit en Christ, conquérir dans l'église locale, que ce soit une église locale en Christ, et ensuite la ville, et ensuite la région. Mais arrêtons avec des objectifs personnels, des luttes de pouvoir, des luttes de succès. Il ne faut pas entrer dans ces choses-là. Il faut rester dans le Seigneur. Il faut laisser les choses. Le Seigneur, s'il veut t'établir, il t'établira. Il ne faut pas se battre pour avoir des pouvoirs des humains. Non, le Seigneur lui-même travaille. Restons humbles et laissons-nous utiliser par le Seigneur à la place qu'il a choisie. Vous voyez, bien-aimés, les gens parlent beaucoup, mais les 10 espions... Ils n'ont même pas fait la guerre. Juste par les yeux, ils ont eu peur. Et vous voyez que c'est des gens, après qu'ils contestent Moïse, qui a conduit les gens pendant des années,
qui les a sortis d'Égypte. Mais ils vont venir contester facilement alors que eux, ils n'ont rien fait. Juste là, à regarder. Est-ce que s'ils étaient à la place de Moïse, est-ce qu'eux, ils auraient pu sortir les enfants d'Israël? Parce que eux, c'est seulement les yeux qui leur ont fait peur. Mais Moïse est parti avec un bâton, aller parler à Pharaon. Toute une armée, c'est comme si tu quittes le Maroc et tu vas parler au président Obama pour lui dire, écoute, allez, vous pliez les genoux devant nous. Mais vous n'êtes qu'un moustique. Mais oui, Moïse est parti. Même si devant Pharaon, il n'était qu'un moustique, une mouche, mais il savait que la puissance de l'armée des cieux l'accompagnait. Et ces gens-là, rien qu'en voyant les obstacles, ils en ont fait un sujet de rébellion. C'était même pas encore la guerre. Après, on vient contester facilement les gens qui ont travaillé, qui ont souffert, qui ont fait des exploits déjà. Moïse, avec Dieu, a fait déjà des exploits. Toi, tu viens contester parce que tes yeux n'ont pas supporté le combat à venir. Bien-aimés, soyons humbles et laissons-nous utiliser par Dieu chacun à sa place. Parce que ce sont ces désirs individuels qui amènent les gens à sortir de la volonté de Dieu, qui les amènent, comme la sœur de Moïse, à dire, mais Moïse aussi, c'est un homme comme nous. Ce que Dieu fait avec lui, il peut faire avec nous. Mais non, mais Dieu a décidé, il a un ordre, il a des autorités, il a mis les choses dans un ordre. Il faut respecter cet ordre-là pour qu'on aille jusqu'au bout. Et quand on sort de ce respect-là, finalement, c'est le désordre. Laissons Dieu lui-même régler ses comptes avec les gens qu'il a établis, parce que sinon, le jour où nous aussi on est établis, on va vivre la même chose. Donc, laissons Dieu agir. Dieu a donné l'ordre à Moïse, allez espionner, vous revenez, vous faites votre rapport, et vous attendez qu'on vous donne le prochain ordre. Eux, ils sont venus dans l'esprit de contrôler le peuple et amener le peuple à changer de position. C'est ça la différence. Parce qu'ils étaient dans des soucis individuels. On leur a donné un travail. Revenez, faites votre rapport. Et laissez les gens qui sont appelés à prendre les décisions, à prendre les décisions. Non, ils ont vu, ils sont venus dans l'esprit maintenant de contrôler le peuple d'Israël, alors que ce n'était pas eux qui étaient établis. Et on voit une conséquence grave. Vous imaginez devant plus de milliers de personnes comme ça, il n'y a que deux personnes qui finalement vont entrer en terre promise. De tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu, deux seulement. Et quand vous allez relire dans la maison toute cette partie-là, vous allez voir que c'est après toutes ces histoires-là que Moïse lui-même chute et que lui-même est privé de la terre promise. Quand on est dans la rébellion vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'ordre de Dieu, ça finit mal pour tout le monde. On ne s'en rend pas compte. Ça va finir mal pour tout le monde. Les gens pensent que ils ont manifesté leur soif d'indépendance, d'orgueil. Mais ça finira mal pour tout le monde. Il faut que tout le monde s'humilie et qu'on suive la logique qui est dans la parole de Dieu à l'effet de toutes les nations de disciples. Comptons sur le Seigneur. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Ne laissons pas les obstacles devenir un sujet de rébellion dans nos cœurs. Ne laissons pas les difficultés. Ne laissons pas les géants en apparence que sont les francs-maçons et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres personnes, nous donner la peur qu'on ne peut rien faire. Non. C'est le Seigneur qui nous a donné l'instruction. Faites de toutes les nations. Allons, faisons le travail. Ne laissons pas non plus les intérêts personnels, les intérêts individuels, individualistes, l'emporter sur la mission divine. Ça finira mal. Parce que c'est la même chose. Si tu ne crois pas que Dieu peut te donner la terre, comment tu peux croire qu'il peut te donner le ciel? Voilà, c'est ça la question. Donc soyons confiants, manifestons notre foi à travers ce travail que Dieu nous confie de sauver d'abord nos villes, la région, le pays et puis le monde entier. Restons dans cette logique-là. Travaillons dans cette logique-là, jour et nuit. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Il n'y a pas autre chose. C'est ainsi que le juste vivra par la foi et c'est cette foi-là qui l'amènera au ciel. Sinon, on connaît comment l'apostasie va toucher beaucoup de personnes. Cette apostasie, l'abandon de la foi, vient du fait qu'on néglige la volonté de Dieu de conquête. On veut faire le stand-by qui finit par le retour en Égypte. Voilà, c'est ça. Stand-by, après on décide de retourner, de vivre comme les gens du monde, sans la foi, en comptant sur la sécurité sociale et bien d'autres choses. Et c'est comme ça que la mort spirituelle arrive. Et on se demande, mais comment ce frère a perdu toute sa foi, tout son zèle? Revenons, bien-aimés, à la volonté de Dieu. Il veut qu'on puisse conquérir. Allons sauver les âmes qui sont encore perdues. C'est dans cette vie-là de combat que notre foi sera maintenue. Et c'est cette foi qui nous amène en même temps au ciel. Je ne dis pas que ce sont ces combats-là qui nous amènent au ciel. C'est la foi en Jésus. Mais vaut mieux aller au ciel après avoir aussi en même temps gagné ici sur terre qu'aller au ciel juste parce que, voilà, on a cru tout simplement. On a cru, c'est vrai, mais maintenant que cette foi-là soit mise au service de Dieu sur terre, afin que notre joie soit parfaite quand on ira au ciel. Que Dieu nous aide à ne pas faire la même chose que ses bien-aimés, que nous imitions Caleb et Josué, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à travailler jour et nuit, à vivre dans cet esprit de conquête, à ne pas regarder à des intérêts individuels ou individualistes, Seigneur, à ne pas nous laisser effrayer par les géants qui nous entourent, par les problèmes et les difficultés, mais à nous concentrer sur la mission finale, Seigneur. À nous concentrer sur ta puissance, ta gloire, au nom de Jésus-Christ, à vivre pour te servir. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci de produire une armée puissante, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit seulement nos enfants qui vivent ces grandes choses, Seigneur. Nous voulons nous-mêmes les vivre parce que la promesse est faite pour nous tous. La promesse est faite pour nous tous. Elle n'est pas faite que pour nos enfants. Nous ne voulons pas tomber dans le même piège. Ô Seigneur, au nom de Jésus, relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Fortifie-nous et replace-nous dans ta vision. Que nous ne puissions pas nous perdre dans des réflexions, mais oui, mais qu'est-ce que je dois faire, Non, Seigneur, que nous disions seulement comme Paul, que dois-je faire? Qu'on parle à toi au lieu de parler à nous. Qu'on te dise à toi, Seigneur, que dois-je faire? Et qu'on soit prêt à t'écouter, tel que tu parles dans ta parole, par ton esprit, par les autorités que tu as établies, afin que nous allions jusqu'au bout et que nous remportions la couronne de vie, la couronne de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui met en Jésus. Oui, Seigneur, nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous as aimés et nous ne voulons vivre que pour Matthieu 28, 18 à 20. Afin que nous entrions au ciel avec des milliers d'âmes sauvées ensemble, chantant tes louanges, glorifiant ton nom, sauvé par grâce, à toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, pour ce que tu vas accomplir. Seigneur, nous savons que tu vas l'accomplir. La question c'est avec qui nous voulons faire partie de ce nombre-là. Au nom de Jésus. Amen.